Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. Luc 11, versets 9 et 10. Et moi je vous dis, demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Heurtez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et à celui qui heurte, il sera ouvert. Dans ces versets de Matthieu 18 et de Luc 11, nous voyons que le Seigneur nous fait des promesses. Dans Matthieu 18, il s'agit de la prière collective, une prière en assemblée, et nous sommes assurés que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu et selon sa nature, eh bien, cette chose sera faite pour nous. Et le Seigneur dit, par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Pour avoir une réponse aux prières, bien il faut demander. Jacques nous dit que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Et la réunion de prières, c'est pour exprimer les besoins de l'Assemblée à Dieu, qui nous entend, qui nous écoute. Et si nous demandons rien, nous aurons rien. Mais si nous demandons beaucoup, eh bien, il nous sera donné. C'est une promesse divine. C'est une promesse que nous fait le Seigneur. Dans Luc 11, il s'agit plutôt de prières, de supplications, de demandes individuelles. Et moi, je vous dis, demandez, il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, heurtez, il faut demander fort, et il vous sera ouvert, car quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche, trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. Si nous ne demandons pas individuellement ou en famille, nous n'aurons rien. L'importance de la prière collective, l'importance de la prière individuelle et de famille. Ce sont des promesses que Dieu fait, ce sont des promesses que le Seigneur fait. Si nous demandons, nous aurons. Dans Tite, je voudrais dire, une expression, au premier chapitre, Au verset 2, il nous est parlé de l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Dieu qui ne peut mentir. Dans Matthieu 18 et dans Luc 11, nous avons lu expressément que si nous demandons en assemblée, en réunion de prière, et si nous demandons individuellement en famille, Dieu nous fait des promesses. Et nous voyons que dans ce verset de Tite, que Dieu ne peut mentir, c'est-à-dire il exaucera en son temps les prières qui seront montées vers lui au nom du Seigneur selon sa nature et selon sa volonté. Encore une expression dans la page avant, dans 2 Timothée. Au chapitre 2, à la fin du verset 13, il nous est dit à propos de Dieu qu'il est fidèle, et à la fin du verset 13, il ne peut se renier lui-même. C'est-à-dire, Dieu ne change pas d'avis. Quand il fait une promesse, eh bien, cette promesse, il ne peut pas mentir, et il ne peut pas se renier lui-même. Et nous sommes des hommes, des femmes, des enfants. Un homme a la capacité de mentir. Et sans doute que nous mentons, quelquefois nous exagérons. Quand nous faisons un rapport sur ceci ou cela, nous ne sommes jamais absolument exacts. Et nous pouvons exagérer ou minorer le rapport de choses que nous aurions entendues ou vues. Dieu, il ne peut pas mentir. C'est un Dieu de vérité, c'est-à-dire, et il ne peut se renier lui-même, il ne peut pas changer d'avis, et quand il dit quelque chose, c'est absolu. C'est vraiment quelque chose, selon la lumière, une chose qui est absolue. Encore un autre verset dans l'épître de Jacques. Au premier chapitre, au verset 13. L'expression « Dieu ne peut être tenté par le mal ». Donc Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas se renier lui-même, et Dieu ne peut être tenté par le mal. Dans l'épître de Jacques, à partir du verset 12, nous voyons qu'il y a deux sortes de tentations. Il y a deux sortes d'épreuves. Il y a les tentations dont Dieu est la source, c'est-à-dire ce sont des épreuves qu'il envoie et qu'il apprécie parce que nous allons tirer quelque chose de bon pour notre vie chrétienne de ces épreuves. Et donc, il y a ces tentations où Dieu est la source. Et à partir du verset 13, il est parlé de tentations qui viennent, d'épreuves qui viennent de notre intérieur, à cause des convoitises. Et nous pouvons être amorcés par notre convoitise et entraînés dans des épreuves qui ne sont pas bonnes, dont l'origine n'est pas bonne, puisqu'elles viennent de notre être intérieur. Alors, quand Dieu fait des promesses, quand il s'engage comme ce Dieu fidèle à répondre à nos prières, est-ce que nous utilisons collectivement, individuellement, en famille, ce moyen? Et alors, je voudrais donner un exemple dans l'Épître aux Romains d'Abraham. Romains 4, verset 20. Abraham, donc, verset 20, « Ne forme-moi point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. » C'est une foi tout à fait remarquable que celle d'Abraham. Et il était âgé, Sarah était âgée, et l'âge d'avoir un enfant était sans doute passé, selon l'homme, mais il avait confiance dans la promesse de Dieu d'avoir un héritier. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité. Si deux sont d'accord pour demander quelque chose, est-ce que nous sommes certains? Est-ce que nous nous appuyons sur les promesses de Dieu qu'il va répondre à ces prières qui sont faites au nom du Seigneur? Quand nous demandons individuellement ou en famille, quand nous avons des exercices de prière, peut-être quant à nos enfants, quant à nos petits-enfants, est-ce que nous avons cette confiance en Dieu? Abraham ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce que Dieu avait promis, il est puissant aussi de l'accomplir. Est-ce que nous avons cette foi, cette confiance absolue dans les promesses de Dieu? Alors il y a des écueils. Il y a des écueils. On peut se dire, par exemple, je suis trop misérable. C'est sans doute vrai pour Abraham, mais c'est pas vrai pour moi, non? Et nous pouvons aussi chanceler. On a exprimé tout à l'heure dans une prière qu'il y a peut-être des croyants qui doutent, qui attendent les réponses de Dieu. Et est-ce que nous allons limiter la grâce de Dieu? Est-ce que nous allons douter des promesses divines? Abraham était persuadé que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Et Dieu désire que nous ayons foi en ses promesses, et ainsi nous glorifions Dieu. Quand nous avons foi dans ces promesses, dans ces promesses qui sont écrites dans cette parole de Dieu dont on a prié pour son importance tout à l'heure, eh bien, Dieu, il ne peut mentir. Dieu ne peut renier son propre caractère. Son être et sa nature sont immuables. Eh bien, il faut que nous ayons cette confiance absolue en Dieu et d'être confiants dans les promesses de Dieu. Encore un mot sur la seconde épître de Pierre, un verset au chapitre 1, au verset 4. Il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine. Les promesses de Dieu, l'apôtre Pierre les qualifie de très grandes et précieuses. Il y a des centaines de promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Et ces promesses, promesses de la vie éternelle, Tite, c'est la promesse de la vie éternelle, cette promesse d'être sauvé si nous croyons au Seigneur Jésus, c'est une promesse. Il est ajouté, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est des promesses qui s'enchaînent, c'est une chaîne de promesses. Est-ce que pour nous, les promesses divines sont très grandes et précieuses? Est-ce que nous avons cette foi d'Abraham qui honore Dieu ?